C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec l'architecture, l'urbanisme au plus près de nous.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, LEM comme l'émission, le magazine qui vous fait découvrir le meilleur du Finistère, le plus pertinent, le plus inventif, le plus novateur. Novateur comme une autre approche de l'architecture. Alors oui, l'architecture, ça sonne un peu grand monument, grand projet, grand prix, ou bien maison d'architecte hors de prix et hors de portée du commun des mortels. Ou à l'inverse, l'architecture, ça peut évoquer le standardisé, le logiciel 3D, toujours le même, qui fabrique un quartier en trois coups de cuillère à peau et tout va se ressembler. Eh bien non, aujourd'hui on va découvrir que l'architecture ça peut être autre chose et puis il n'y a pas que l'architecture, on ne vit pas au milieu de nulle part, souvent on vit en ville donc l'urbanisme va façonner notre vie autant que notre logement le fera. Et justement, l'atelier TLPA de Brest est une agence d'architecture et d'urbanisme et même de paysage. Tristan Laprairie en est le fondateur et lui a donné ses initiales. Il est architecte urbaniste et Marianne Lebert, sa collègue, est architecte et chargée de communication. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon, j'ai pas dit trop de bêtises.
Ah bon, au contraire.
Alors, comment est-ce qu'on présente, comment est-ce que vous vous présentez TLPA aux gens qui vous connaissent pas ?
Bah, qu'on est effectivement un atelier, déjà. C'était un atelier, ça veut dire qu'on est en recherche perpétuelle, qu'on essaye de fabriquer des choses et qu'on traite le sujet de manière très large sur les espaces dans lesquels on vit en s'attaquant à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage de manière assez indifférente en fait, c'est-à-dire on essaie d'avoir une démarche globale en regardant le bâti dans son paysage, dans la ville, dans les usages. Et puis, ce qui est un peu le fil conducteur de notre pratique, c'est de le faire au maximum avec les gens. C'est-à-dire de pas se considérer comme sachant, en tout cas pas de tout, mais plutôt comme déclencheur, animateur, en capacité de proposer des méthodes et des moments de débat et de co-construction qui font qu'on arrive à un projet qui soit collectif.
Cette démarche, vous la pratiquez depuis le début de l'agence. Enfin, quel âge d'ailleurs, TLPA ? Ça fait combien de temps que ça existe ?
Un peu moins de 15 ans.
Ah oui, quand même. Donc, et ça, dès le départ, vous étiez dans le participatif ?
Même là, au moment de la fondation de l'atelier à Brest, les quelques projets que j'avais moi tout seul à l'époque, c'était de l'habitat participatif à l'opérette ou ailleurs, avec Ecocoom.
On connaît plusieurs maisons
très rigolotes et très sympathiques à construire. Ouais, c'est ça. Et en fait, assez vite, j'ai toujours été attiré par les projets urbains, c'est-à-dire par les espaces de vie plus larges, mais aussi qui s'intéressent à plus de public.
Bah vous êtes d'ailleurs urbaniste, enfin, il y a des architectes pas urbanistes, mais vous l'êtes quoi.
Alors moi je ne suis pas urbaniste dans mon diplôme, je suis urbaniste dans la pratique, et puis j'enseigne aussi à l'Institut de géo-architecture qui a un master d'urbanisme, alors j'ai fini par assumer de mettre le mot urbaniste après architecte. Mais effectivement, c'est à la fois une question d'échelle et une question de nécessaire consensus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on construit la ville, c'est forcément à plusieurs. Enfin, ça paraît en
ça cas, vaut mieux.
D'autant plus, enfin, encore plus aberrant d'imaginer dessiner de la ville tout seul qu'un bâtiment. Et cette échelle-là qui m'attirait bien, les toutes premières commandes que j'ai eues, en fait, ce qui m'a paru évident, une fois avec une amie, Marie Guingangira de Onésime Paysage, qui elle est paysagiste, à Brest aussi, et on s'est retrouvés tous les deux un peu au moment de notre création d'agence, à avoir une première commande pour un lotissement. Commande un peu étrange. On s'est vraiment posé la question de savoir s'il fallait qu'on réponde ou pas. Est-ce qu'on avait envie de dessiner un lotissement ? Et en même temps, on s'est dit, mais si des gens comme nous, pleins d'espoir et d'envie de révolution, s'attaquent pas au sujet,
Bah,
ça changera jamais, en fait.
C'est ça.
Donc on s'est dit que ça pouvait peut-être changer. Et on a proposé à notre client, notre maître d'ouvrage, de commencer par faire une balade sur les champs concernés par le lotissement. C'était à Plouzanet, à côté de la Technopole, à côté de l'Ifremer. Et donc de faire une balade et d'inviter les riverains à nous dire qu'est-ce qui leur plaît dans ce quartier, qu'est-ce qui les dérangerait le moins en termes de construction de nouveaux habitats, est-ce qu'il y a même, pourquoi pas, des nouveaux chemins qui pourraient traverser le quartier, qui pourraient leur plaire, etc. Et donc on avait lancé cette invitation à laquelle ont répondu plus de 90 personnes. Donc on était complètement submergés. On était arrivés avec 2 litres de jus de pomme et un paquet de madeleines en imaginant pouvoir discuter avec peu de choses. Puis en fait, il y avait un monde fou. Et,
ah oui, comme que
et
ça intéresse.
On a vécu dans tout premier moment, hein, c'est la première fois avec Marie qu'on s'était dit il faut qu'on fasse les choses en concertation, ça nous paraissait naturel en fait. C'était pas du tout la demande. Hein, mais... et en fait, on s'est aperçu que même si la plupart des gens arrivaient dans une posture de défense, de crainte, de peur de ce qui allait leur arriver, ben, au bout de 2 heures de balade, et avec quand même un petit un fond de jus de pomme du coup et un bout de madeleine, on avait réussi à créer une sorte de relation de confiance. Ils avaient bien vu qu'on n'était pas, entre guillemets, des méchants.
Mmh.
Et qu'on était là pour essayer de faire du bon boulot, qu'on trouvait que leur quartier était chouette, qu'on allait effectivement organiser l'habitat d'autres gens, et que ça ne voulait pas dire que ça allait leur faire perdre quoi que ce soit, et qu'en faisant le projet ensemble, ils pouvaient certainement être plus riches, plus intéressants et plus réussis que si on le faisait nous tout seuls dans notre coin.
Mmh. Et ce n'était pas la commande. C'est ça qui est pas mal aussi.
Ce n'était pas la commande du tout. L'aménageur, lui, il pensait qu'on allait lui faire un grand plan masse efficace avec des rues toutes droites et un parking à maison. Quoi. Et en fait, ben, du coup, on a dessiné autre chose. On a dessiné des petits coins avec des arbres, un endroit pour un petit camion food truck parce que les voisins trouvaient ça sympa, des chemins qui traversent parce qu'ils nous disaient mais c'est compliqué, les ados qui vont prendre le bus la nuit, ils sont là, c'est pas éclairé, ils sont sur le bord de la route, est-ce que vous pourriez pas faire un chemin? Bah bien sûr, très bien. Les services de la métropole qui nous ont dit mais il faut aussi penser aux crapauds, il y a pas mal de crapauds qui passent d'une vallée à l'autre, faites-nous des endroits pour les crapauds.
Crapauduc.
Du coup, on a fait se croiser tout le monde dans un plan masse qui n'était pas forcément plus compliqué à faire techniquement ou plus cher à réaliser pour l'aménageur.
Oui, c'était une des questions, oui.
qui était issu d'un débat collectif, ce qui forcément le rendait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus original aussi. Et ça a finalement déclenché une méthode de travail qui est qu'à chaque fois, on essaye d'inventer des nouveaux outils, des nouveaux moments de concertation, en fonction du lieu, du projet, de ce qui nous paraît pertinent de faire.
À chaque fois, il y a concertation quasiment. Enfin,
c'est
pas
très très rare qu'on travaille sans.
Ouais.
Et quand on travaille sans, c'est souvent parce qu'en fait, il y a un peu erreur de casting. C'est-à-dire qu'on a accepté un projet qu'il n'aurait peut-être pas fallu qu'on accepte parce qu'en fait, notre maître d'ouvrage n'a pas du tout envie de ça. Et notre grand plaisir, c'est, et ça arrive assez souvent finalement, c'est d'avoir des commandes dans laquelle la concertation n'est pas déjà présente, de proposer des choses, que ces choses soient acceptées, et que tout le monde à la fin, y compris notre maître d'ouvrage, se dise « Ah ouais, quand même, c'était vachement chouette, ça valait le coup de faire ça. »
Mais pourtant, je crois que la concertation devient de plus en plus inclus légalement, enfin on va y revenir, mais juste avant, l'atelier TLPA, il a bien grandi entre ses débuts il y a 15 ans, et puis maintenant vous êtes une douzaine, et puis il y a une chargée de communication, et c'est Marianne Lebert. Comment vous mettez en avant justement l'agence ?
Alors, donc moi, plus spécifiquement, je fais donc tout ce qui est en lien évidemment avec la communication de l'agence, mais je suis aussi illustratrice. En fait, par exemple, l'illustration, c'est quand même quelque chose qui existe à l'agence déjà bien avant que j'y arrive, il y a 2 ans et demi, 3 ans, notamment avec Constance Baudenès, qui est illustratrice, également architecte, qui a travaillé pendant quelques années aussi à l'agence. Et en fait, justement, c'est par l'élaboration de ces outils de concertation, etc., en fait, où j'imagine, dès la genèse de l'agence, il y avait un peu cet enjeu de en fait, on ne vient pas communiquer pour vendre avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Donc, travailler avec des riverains, des habitants, toutes sortes de personnes différentes. Donc, du coup, il y a aussi un enjeu à venir représenter des ambiances, venir changer aussi le rapport à peut-être un peu froid, un peu rigide ou technique, en fait, de ces...
Parce que vous illustrez avec vos petits doigts.
Oui.
Voilà. Vous n'utilisez pas l'IA, enfin si, peut-être à force, mais...
Non, et non. Pour l'instant, l'IA, j'espère encore...
résister.
pendant longtemps, n'est pas encore trop mis ses pieds à l'agence. Donc non, je dessine aider quand même avec une petite tablette numérique, parce que ça facilite les choses, mais en fait... avec mes petites mains et en fait finalement plusieurs personnes à l'agence aussi utilisent justement le dessin en fait, hein. C'est quand même un outil globalement que quand on a fait des études d'archi après paysage etc, tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise, mais c'est quand même quelque chose avec lequel on travaille.
Et dans les ateliers, quand il y a des ateliers participatifs, vous êtes présente, vous, Marianne Lebert, en tant que chargée communication ou pas?
Alors, moi, j'ai pu participer, mais c'est plutôt sur les, on va dire les outils que je vais développer. Donc ça peut être en amont des projets, pendant, dans les différentes phases, et puis ça peut être aussi après, voilà, comment on va venir raconter, parce qu'il y a aussi, quand des projets durent des années, c'est pas les mêmes personnes qui sont forcément début à la fin, et puis en fait, une fois qu'on voit les choses construites et qu'on les traverse, des fois ça peut être intéressant de pouvoir comprendre le processus.
Ouais, de revenir sur l'histoire, quoi.
C'est ça.
Et Tristan Laprairie, quand il y a un atelier qui est organisé, enfin, je ne sais pas si vous avez une méthode, une fois pour toutes, pour les ateliers participatifs, ou est-ce que vous adaptez pareil à chaque fois au public présent ? Est-ce qu'il y a, par exemple, un facilitateur ou une facilitatrice graphique qui va dessiner pendant que les gens parlent ou...
On n'a jamais fait le coup du facilitateur graphique, mais j'ai vu que ça se faisait, ça pourrait être intéressant. Alors, en fait, non, on n'a pas de modèle, ou plutôt on a plein de modèles qui sont les expériences qu'on a pu mener, et on en invente toujours de nouveaux, en fait, parce qu'à chaque fois, on commence par se poser la question de qu'est-ce qu'on vient chercher, nous, dans cet atelier. C'est jamais des moments de concertation qui sont faits simplement pour calmer la révolution qui voudrait se mener en face, ou pour la forme, ou pour dire « si, on vous a demandé votre avis, regardez, il y a eu un atelier ». Non, si c'est pour ça, vaut mieux pas le faire, franchement. Mais donc à chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on a besoin de dessiner avec des gens ? Est-ce qu'on a besoin de mieux comprendre leur espace de vie ? Est-ce qu'on a besoin de leur faire choisir des choses ? Et à chaque fois, ça amène des outils différents, ça amène des moments différents et des manières différentes de débattre. Je me souviens qu'il y a quelques temps, alors qu'on avait vendu à la collectivité, entre guillemets, des ateliers, où la collectivité nous imaginait, c'était à Guerlesque, nous imaginait autour d'une table à dessiner des trucs sur des bouts de plan. Et en fait, on sentait qu'on avait besoin de faire accepter aux gens le fait que leur centre-ville, leur centre-bourg, ils aimaient bien dire ville à Guerlesque, leur centre-ville, même si c'est tout petit, mais
quand même,
voilà, leur centre-ville allait évoluer. Et on a senti qu'il y avait, un peu comme un ostéopathe qui a besoin de replacer un peu le squelette avant d'attaquer la suite, on a senti qu'il y avait d'abord ce besoin-là. Du coup, qu'est-ce qu'on venait chercher chez les gens ? Une acceptation du changement. Est-ce qu'on fait ça en leur amenant une maquette du centre-ville ? Parce qu'on fait plein de maquettes aussi. C'est les bons outils pour jouer.
Ouais.
Non, c'est pas forcément avec une maquette. Est-ce qu'on fait ça en les mettant autour d'un plan et en leur disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non, parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'idée que ça allait changer. Et donc on s'est dit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un atelier où on va demander à tout le monde de venir avec un appareil photo. Bon, tout le monde a un téléphone maintenant, la poche, ça simplifie. On va leur montrer des vieilles cartes postales prises dans le centre-ville de Guerlesque. Et on va travailler à venir prendre les mêmes points de vue aujourd'hui. Et avec tout ça, on va faire une exposition qu'on va mettre dans toutes les vitrines des commerces du centre-ville. Les participants à cet atelier, je ne sais pas pourquoi c'est cet atelier qui me vient.
Oui, c'est une bonne idée.
J'avais pas du tout prévu d'en parler, mais...
Non, très bien.
Du coup, se retrouver à prendre en photo avec le même point de vue, un centre-ville qui avait évolué, on voit bien que ce n'est pas la même chose que sur la carte postale. Donc finalement, on les faisait être eux-mêmes acteurs d'un moment de reconnaissance que, oui, cet espace-là, il était différent. Aujourd'hui, il est comme ça. Et peut-être que du coup, demain, il peut être autrement. On n'est pas en train d'attaquer un espace inamovible qui a toujours été comme ça. On est en train de poursuivre l'évolution d'un lieu qui, de toute façon, comme la ville et nos espaces de vie de manière générale, n'a qu'une seule vocation, c'est d'être en réinvention permanente.
Un autre exemple que j'aimerais que vous racontiez, c'est l'immeuble de Quimper-Acadie qui a vraiment été un immeuble conçu par ses habitants. C'est ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cet immeuble ?
Ça fait partie de nos expériences assez rigolote, effectivement. On en a même fait un livre illustré brillamment par Marianne. Un peu en roman graphique, ce qui le rend facile à lire, je pense. Effectivement, on a été retenu un jour à concourir pour un immeuble de 40 logements. On n'avait jamais été retenu à concourir pour un immeuble de 40 logements. J'avoue que des fois, on lance un peu des candidatures comme
ça. Oui, pour
voir,
on comprend.
Et pour une fois, on était retenu. On n'avait jamais fait ça, 40 logements d'un coup. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est... La petite genèse, finalement, qui a amené ce projet-là, c'est que, collectivement, évidemment, à l'agence, on s'est dit, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous connaissez un immeuble de 40 logements dans lequel vous avez envie de vivre ? Parce que j'avais promis à ma maman que, si j'étais architecte, c'était que pour faire des choses dans lesquelles je m'imaginais vivre. Surtout pas autre chose. Et notre réponse, c'était que, non. on en imaginait bien certains qu'on voyait dans des magazines et qu'on trouvait bien dessinés, ou classe, ou hyper élégants, ou hyper bien vus, etc. Mais dans lequel on ait envie de vivre, non. Et on s'est dit, ben, si on répond à ce concours et qu'on dessine un immeuble pour 40 logements, il faut que ce soit quelque chose dans lequel on ait envie de vivre. Et l'élément central, c'était, ben, du coup, il faut que ce soit chaque habitant qui dessine son logement. Et c'est ça qui va...
C'est vous qui avez proposé, c'était pas la commande.
Non, c'était pas la commande.
C'était assez nouveau, parce que autant on peut faire ça pour des projets d'aménagement urbain, autant c'est vrai que pour des immeubles, je pense que c'est assez rare, non ?
C'est même, alors encore aujourd'hui, à peu près unique. En tout cas, on n'a pas trouvé d'autres exemples, sauf à Berlin dans les années 80. Et du coup, on a eu l'architecte allemand Günther Ludwig, qui est venu nous voir à 83 ans, je crois. Il est venu nous voir à l'agence en nous disant « Oh, je désespérais de voir des gens qui refassent pareil ». Donc effectivement, c'est très rare. Et pour le coup, ça donne un résultat qui est tout à fait inattendu, graphiquement. Parce que chaque habitant a pu choisir la couleur de son bardage, la taille et la forme de son balcon, l'emplacement de ses fenêtres, etc. Et même ajouter des espaces en plus par rapport au plateau qui lui était d'abord proposé. Donc ça donne un immeuble qui ne ressemble pas du tout aux immeubles de d'habitude.
Compatible avec les réglementations d'urbanisme et tout ça
et oui, et c'est ça qui en a fait une longue aventure. C'est
que c'est ouais, ça a pris simple. Combien de temps
C'est facile d'avoir une idée à la con comme ça au début. Ça, mais ouais, voilà.
Formidable.
Donc déjà, on n'en revenait pas d'avoir gagné le concours avec une idée pareille. Ce qui a fait que, quand même, au moment du concours, on a remis une image qui ne serait pas le projet. Puisque l'image, c'était...
Oui, on demande toujours une image. Ouais,
ce sûr. À quoi on pourrait arriver... Sauf que les habitants, on ne les connaît pas encore, donc ce ne sera pas ça. Mmh. Donc déjà, bon. Moi, je pensais qu'on était disqualifiés d'emblée avec un truc pareil. Donc en fait, on a proposé une méthode plus qu'un résultat. Et ensuite, il a fallu travailler du règlement de copropriété au PLU, avec les élus et les services de Quimper, à un travail énorme avec les services de commercialisation du logis breton, qui est le maître d'ouvrage de ce bâtiment, pour que les commerciaux admettent qu'ils n'allaient pas vendre des plans, mais qu'ils allaient simplement vérifier que les acquéreurs ou les locataires, hein, c'est moitié HLM, moitié accession sociale, donc c'est pas du tout un immeuble de prestige hors de prix, ça coûte le prix du logement social. C'est un peu fou de se dire ça quand on voit la tête qu'il a, mais comme quoi il y a d'autres qui pourraient faire
oui, c'est
mieux,
faisable,
peut-être.
Oui.
Et du coup, l'enjeu, c'était qu'il fallait simplement vérifier que les acquéreurs ou les locataires étaient dans le bon cadre pour avoir le droit à ce logement. Et ensuite, les gens nous rencontraient, nous, et on faisait une petite maquette en direct de leur logement qu'on allait replacer dans la maquette générale. Ils choisissaient une foule de choses. Et puis ensuite, le chantier s'est fait avec pas mal de visites aussi des futurs habitants. Et puis, il y a eu une démarche récemment avec le jardin aussi, avec Bivouac, un petit atelier de paysagistes hyper sympa, là, qui a permis de générer un jardin collectif, etc. Il y a une petite maison du projet qui est venue se construire au début et qui est toujours là et qui leur sert aujourd'hui encore.
Mais tout le monde s'est prêté au jeu. Enfin, il n'y a pas des habitants qui sont restés à part.
Bah non, en fait, tout le monde... Il fallait bien, de toute façon, dessiner son logement. Hein.
Bah,
c'est le jeu, donc.
Ouais, ouais. Marianne, vous, ça fait combien de temps que vous êtes architecte ? Enfin, même chargée de com' de l'agence, mais...
Alors, j'ai fini mes études il y a quelques années, mais je travaille depuis 2 ans et demi, 3 ans là, à l'atelier.
Et alors, j'ai une petite question annexe, mais on dit souvent, il y a beaucoup d'étudiants en architecture qui ne vont pas au bout, enfin, qui font leurs études puis qui font un autre métier. Vous avez réussi à tenir ?
Je pense que, en fait, après les études, moi, je considère quand même que c'est en lien avec l'architecture, ce que je fais. Même si je fais plus de plans, etc., etc. Mais en fait, je pense que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une diversité d'outils qu'on apprend pendant ses études. Et après, c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde non plus de rencontrer des conditions, on va dire, dans le monde de l'emploi après des études d'architecture qui nous offrent comme là l'opportunité d'expérimenter des outils autres que de la conception pure et dure de bâtiments. Mais ça existe et c'est hyper intéressant. Il y a tout le travail des maisons de l'architecture, des CAUE par exemple aussi, qui vont travailler.
CAUE, justement... c'est Conseil d'architecture, d'urbanisme et l'environnement, c'est ça ? C'est des structures départementales souvent. On en a dans le Finistère.
Exactement. Ouais. Et c'est accessible à tous, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Je pense que justement, c'est un peu aussi ce qu'on se dit à l'agence, mais l'architecture, l'espace en fait, c'est aussi c'est un service public en fait, ça appartient à tout le monde. Donc comment œuvrer à ça globalement, voilà. Donc Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, je pense, entre les études qui sont aussi très très riches et le monde professionnel, il peut y avoir quand même
des gros décalages.
Des gros décalages, ouais. C'est sûr.
Et on se retrouve finalement à faire du rendement, quoi, c'est ça. Parce qu'il faut trouver son équilibre économique quand même, Tristan Laprairie. Il faut, entre tout ce temps passé avec les gens, c'est super, mais enfin, ça coûte cher, c'est du temps.
Ça pourrait être le drame, et c'est la chance un peu incroyable. Moi, je continue à penser, à croire un peu en une bonne étoile. Mais effectivement, on tient année après année, avec pourtant des projets comme l'Acadie, par exemple, où on a passé 2 à 3 fois plus de temps que ce qui était censé nous permettre nos honoraires. Donc c'est vrai que moi, je privilégierais toujours la qualité de la démarche, le fait d'aller vraiment au bout de ce qu'on a... de nos engagements et de nos valeurs. Après, il faut malgré tout que l'agence existe toujours l'année d'après. Donc oui, c'est pas forcément facile. Maintenant, on arrive malgré tout à n'avoir aucun projet, alimentaire. Je crois qu'il y en a qui appellent ça comme ça. C'est-à-dire, on n'a aucun projet qu'on fasse sans y mettre d'enjeux. De co-conception collective ou de construction écologique ou de choses comme ça et qui passe à l'as. Si vous allez sur notre site internet, vous voyez tout. On n'arrive à pas avoir d'activité cachée qui finance le reste.
Honteuse,
ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, par contre, chaque année, c'est compliqué.
Oui, c'est un défi tout le temps.
Voilà, ça suppose... un engagement de tous.
Et il y a quand même eu des évolutions dans le milieu de l'urbanisme ou de l'architecture, même ne serait-ce que juridique, qui sont plutôt favorables, non ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, justement, sur cet aspect participatif ? Maintenant, je crois que c'est un peu obligatoire quand on fait un projet d'urbanisme ou c'est cosmétique ?
peut-être un peu trop. En fait, ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est qu'effectivement, depuis quelques temps, la concertation a tendance à être intégrée au cahier des charges. Et évidemment, en soi, on pourrait dire que c'est une bonne chose. Et en même temps, du coup, le cahier des charges dit exactement comment il faut faire. Et là, pour le coup, nous, en tout cas, ça nous va moins, parce qu'on aime bien pouvoir proposer des choses différentes à chaque fois. Et du coup, y a pas mal d'appels d'offres de collectivités qui disent, dans une première phase de diagnostic, on fera une balade publique. Dans la deuxième phase du projet, vous ferez 2 ateliers, un sur un thème de mobilité et l'autre sur un thème de je ne sais pas quoi. Et puis, en troisième intention, vous ferez une réunion publique d'information, etc. Et nous, en fait, en voyant le sujet, on se dit, mais du coup, l'atelier photo à Garlesquin, on pourrait plus le faire. Arriver avec une grande maquette et faire que les enfants jouent avec de la peinture, on ne peut pas non plus. Nous, on trouve qu'en deuxième phase, ce serait intéressant de faire une balade à vélo plutôt qu'un atelier mobilité, parce que ça nous paraîtrait plus intéressant pour que les gens se rendent compte des conditions dans lesquelles, etc. Et on se retrouve à perdre de notre liberté de proposition. Mm-hmm. Alors du coup, on propose quand même.
Ouais, vous avez raison, je pense. Voilà.
Mais du coup, on est encore plus cher que tout le monde.
Mais vous êtes choisi parfois quand même.
Parfois, suffisamment de fois.
C'est
en tout
ça,
cas.
C'est ça.
Mais c'est vrai que c'est un peu le danger de cette institutionnalisation de la concertation. C'est que du coup, ça finit par être standardisé. Et finalement, s'il y a bien quelque chose contre lequel moi j'aurais tendance à lutter, c'est la standardisation.
Et oui. Et alors, il y a encore plein de questions que j'aimerais vous poser, mais il ne reste que 3 minutes. Alors, vous êtes aussi un atelier d'architecture d'urbanisme qui fait de la vulgarisation finalement, on va appeler ça comme ça, de la médiation. Notamment, vous êtes en lien avec l'association Objective Mars, c'est vous qui l'avez créée. Expliquez-nous ce que c'est.
En fait, il y a déjà un petit peu plus de 10 ans, c'est-à-dire pas si loin de la création de l'agence. J'avais participé à la Maison de l'Architecture de Bretagne, qui est une association régionale tout à fait sympathique, qui travaille à la diffusion de la culture architecturale. Donc j'en étais membre, j'étais le seul Brestois à l'époque, et on travaillait avec la collectivité brestoise pour la Semaine de l'Architecture, qui a eu lieu pendant pas mal d'années. En général, c'était au studio à Brest, et puis il y avait un pendant à Quimper. Ça faisait partie d'une alliance culturelle un peu entre les deux villes. Et puis, les années passant, on avait voulu trouver un petit peu plus d'autonomie dans la programmation que ce que nous permettaient les collectivités, qui ont toujours un programme. C'est elles qui finançaient tout, donc forcément, ça leur donne toute liberté éditoriale et ça nous enlève la nôtre. Donc, on avait monté cette petite association en parallèle, Objectif Mars, qui ne se voulait pas du tout concurrente de la Maison de l'Architecture. Et pas non plus provocatrice vis-à-vis des collectivités, mais qui était fondée du coup par quatre personnes, c'est-à-dire une chercheuse en architecture, une urbaniste, une paysagiste et moi-même architecte. On se disait qu'il y avait une petite cohérence qui sortait un peu de l'archi et qui se donnait comme objectif, non pas Mars, la planète, mais Mars, le mois de Mars à l'époque, où on a fait plusieurs événements sur le port de commerce d'abord, quelques petites conférences, tables rondes, et ensuite on a créé ce format des cafés de l'espace. Ça c'était pour rire.
Oui, bien sûr, Mars, tout voilà, ça. Voilà.
Sauf que et en même temps, l'espace pas facile, on ne pouvait pas appeler ça café ouais, d'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Hein. Le CEU fait
pas
ça,
sexy.
Mais c'est bon.
Ouais, ouais.
Donc c'était un moyen de parler de l'ensemble de nos espaces de vie. Et c'est un format qui a existé à plusieurs époques et qui là, effectivement, s'est bien développé ces dernières années. On a un public assez régulier.
C'est à peu près par trimestre, c'est ça, en gros là.
Oui, on va dire qu'il y en a 3 ou 4 par an, d'accord, par saison, en général. Du coup, Objectif Mars, maintenant, est devenu un peu la section brestoise, car c'est un combat, de la Maison de l'Architecture de Bretagne. Et on travaille en bonne intelligence, on va dire, en réseau, entre le peu d'acteurs culturels sur l'architecture qui existent sur le territoire, pour proposer ces moments-là, qui sont des moments de débat, qui peuvent être aussi des moments un peu plus d'explication par des conférenciers qui viennent montrer leur travail, etc. Et c'est vrai qu'on a entre 80 et 120 personnes, quelquefois, à nos cafés de l'espace, qui, voilà, on a trouvé un peu notre petit public. Et c'est presque la seule chose qui se passe à Brest sur ces thèmes-là. Donc, on va essayer de développer ça sur le reste du territoire, maintenant.
Ouais, très bien. Bah, on prend note. On vous remercie, parce que c'est déjà fini. Mais je pense que vous reviendrez. Ou alors, peut-être qu'on vous entendra par un autre biais, comme un podcast. On en reparlera. À bientôt. Merci.
À bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.